Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, pour cette émission à voix haute aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le premier roman de Dima Abdallah, Mauvaises Herbes, paru en 2020 aux éditions Sabine Vespizer. Vous allez être dans les pas d'une petite fille qui, alors que la guerre fait rage autour d'elle, tient la main de son père. Nous sommes à Beyrouth en 1983. La main du géant est tellement immense qu'un seul doigt me suffit. Il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre par la main. Je sens l'épaisseur de chaque phalange sous ma paume qui serre fort. Quand l'auriculaire m'échappe, il me tend l'index. Je marche en titubant un peu parce que c'est souvent difficile pour moi d'avancer au bon rythme. Je sais qu'il sait parfaitement où aller. Alors, je le suis péniblement, m'accrochant comme je peux aux doigts, à un rythme bien trop rapide pour mes petites jambes et dans un espace bien trop grand et chaotique pour que mes petits yeux l'apprivoisent. À ma hauteur, il n'y a que mes camarades qui s'agitent et s'agglutinent autour de nous. Je n'aime pas beaucoup mes camarades, surtout quand ils pleurent. Et je n'aime pas quand il y a autant de gens et autant de bruit. Moi, je n'ai pas trop peur, vu que je suis avec mon géant. J'ai décidé que dans ce genre de situation, il fallait lui faire confiance. Il est fort et il est très intelligent. Quand le doigt m'échappe, je m'agrippe à un bout de tissu du pantalon qui couvre l'énorme cuisse. Il s'arrête alors et me tend de nouveau la main, l'auriculaire ou l'index. Il me dit parfois des choses que j'entends mal. Alors je ne lui réponds pas, mais ce n'est pas trop grave, on se parlera plus tard. Je me contente de m'accrocher à la main et je reste bien concentrée pour ne surtout pas la lâcher. Je serre fort ce doigt, je sais que c'est important. Je lève parfois la tête pour regarder son visage et je me dis à chaque fois qu'il est drôlement grand. Il est venu me chercher dans une cour qui n'est pas la mienne. C'est là qu'on nous rassemble dans ces cas-là quand ils appellent les parents pour qu'ils viennent. C'est dans cette petite cour que les enfants se mettent à pleurer et à sangloter en chœur. Il y a le premier et, comme un effet domino, ils se mettent tous à pleurer les uns après les autres. Moi, j'ai toujours regardé ces scènes avec incompréhension. Je les envie d'être aussi similaires, aussi coordonnées. J'avais beau essayer de penser à des choses tristes pour pouvoir pleurer avec eux, je n'y arrivais pas. Non, moi, comme d'habitude, dès que les tirs se sont intensifiés, j'ai prié pour que ça dure assez longtemps pour inquiéter les professeurs. Je savais que plus le bruit était fort, plus les explosions étaient régulières et rapprochées, plus on avait une chance de rentrer chez nous. Je ne suis pas bête. Je sais qu'il se passe quelque chose de sérieux. Les adultes emploient un ton très solennel quand ils en parlent. Ils sont souvent très nerveux. Par exemple, ils n'aiment pas quand on achète des pétards et des feux d'artifice. Et quand ils en entendent un éclater, ils insultent parfois les gamins dans la rue. Moi, je crois que ce n'est pas si grave que ça, ces histoires de guerre. Et je n'aime pas trop parler de ces choses-là. Ça ne me regarde pas. Et puis, je ne suis pas très douée pour parler des choses sérieuses. Aux premières détonations, personne n'a réagi dans la classe, c'est à peine si la maîtresse a arrêté de parler quelques secondes. Le bruit semblait encore lointain et irrégulier. Moi, je n'écoutais plus rien de ce qu'elle disait, et je priais ciel et terre pour que les tirs s'intensifient et que le bruit se rapproche. J'ai inventé une petite prière que je fais dans ma tête quand j'ai quelque chose à demander à Dieu. Mon Dieu à moi, pas celui des autres. Celui des autres, je ne l'aime pas trop. Quand le visage de la maîtresse s'est crispé, j'ai tranquillement commencé à ranger mes affaires dans mon cartable avant même qu'elle nous le demande. Avant de donner l'ordre de sortir de la classe, elle prend toujours la peine de dire aux enfants « Ce n'est pas grave, il ne faut pas paniquer », sans en perdre son français, ce à quoi la classe entière répond toujours par des cris d'effroi en chœur et en arabe. Une fois dans la petite cour où on attend les parents, c'est un concerto, un psychodrame que je regarde comme un film. C'est les caïds qui me fascinent le plus. J'observe à chaque fois avec émerveillement ces petits durs sangloter dans les jupons de la maîtresse. Je les dévisage, subjugués par les larmes, la sueur et la morve qui coulent à flots. C'est peut-être parce que je suis la seule à ne pas pleurer que la maîtresse ne m'aime pas. Moi, je n'arrive pas à me forcer à pleurer, ce n'est pas de ma faute. J'ai vraiment essayé pourtant. J'essaye à chaque fois. À côté de mes camarades en panique, je jubile en essayant que ça ne se remarque pas trop et je guette l'arrivée de mon géant à travers un petit trou dans le mur de la cour. Un trou si petit qu'on ne distingue presque rien à travers. Ça ne m'empêche pas d'essayer de guetter sa venue. Puis, le visage écrasé sur le mur, on me voit moins. On voit moins qu'aucune larme ne veut bien couler de mes yeux. En plus, juste à côté de mon mur, il y a un grand bac de terre où poussent différentes fleurs dont je ne connais pas le nom. J'aime bien observer les pétales de près et caresser les feuilles. Ça m'occupe et c'est comme si toucher les fleurs rendait les cris de mes camarades moins stridents. Je suis bien contente que mon petit frère soit resté à la maison aujourd'hui. À chaque fois que je regarde mes camarades pleurer, je pense à lui et aux imbéciles de sa classe qui doivent paniquer encore plus, vu qu'ils sont tout petits, et lui faire peur avec leurs cris. Je ne veux pas qu'il ait peur. J'essaie toujours de refaire ma queue de cheval bien comme il faut pour que le géant me trouve jolie en arrivant. C'est aussi pour ça que je suis bien contente de ne pas pleurer. Je ne voudrais pas qu'il me voie pleurer. Je veux être jolie et souriante. Je mouille la paume de ma main avec un peu de salive et j'essaie de lisser tous les petits cheveux qui font des frisottis au-dessus du front. Les filles qui pleurent le plus sont celles qui sont le mieux coiffées. Elles n'ont jamais des petits frisottis sur le devant. La plupart ont les cheveux lisses et bien coiffés, même en fin de journée. Moi, je ressemble à un petit mouton avec mes boucles qui essaye de se faire la malle à longueur de journée. Il m'a souri en arrivant et m'a tendu vite le doigt pour que je comprenne qu'il n'y avait pas le temps pour les accolades et les bisous et qu'il fallait rentrer tout de suite. Il m'a dit qu'on irait manger une glace, mais moi, je sais que ce n'est pas vrai. J'ai 6 ans, je ne suis pas bête. On a échangé 2 ou 3 mots pour se dire qu'on était bien content de se retrouver et que ce n'était pas bien grave, tout ce remue-ménage, puis il a pris mon cartable. Le géant et moi quittons la cour des petits pour en traverser une autre, celle des plus grands. Un grand portail en fer peint en gris clair sépare les deux. Dans la mienne, il y a un grand bac à sable, alors que celle-ci est juste un immense rectangle bétonné. Le grand rectangle donne encore sur une autre cour, celle des vrais grands, celle du collège. Nous traversons une toute petite partie de cette dernière, à peine quelques mètres, pour rejoindre la grande descente menant au portail principal de l'établissement. Quand je le regarde, je trouve que le géant est très beau, bien plus beau que tous les autres parents qui sont venus. Je sais qu'il ne faut pas que je lâche son doigt, alors je reste concentré sur la main. La pente est l'autoroute qu'ils empruntent tous vers la sortie. Des plus petits aux plus grands, le passage impératif vers la sortie est celui-ci, il n'y en a pas d'autre. L'organisation si pensée, la séparation si organisée entre les petits, les un peu moins petits, les moyens, les grands moyens, les grands, les adolescents et les adultes, vole complètement en éclats dans la pente qui mène à la sortie. Il porte mon cartable, mes pas n'en sont pas plus sûrs parce qu'il y a trop de gens. Je pourrais lui dire de marcher moins vite, mais je n'ai pas envie de le déranger. Il a l'air très concentré. Mon géant m'escorte vers la sortie, et plus nous nous rapprochons du grand portail, plus je sens son doigt se crisper dans ma paume. Parfois, marcher en ligne droite n'est pas possible, et nous devons contourner les obstacles. Mon corps se met alors au rythme qu'il me dicte. L'auriculaire m'indique par où il faut passer. Mon cerveau fait écran noir et ordonne à mon être entier de ne prendre pour repère que le géant, voire que la main, voire que le doigt.
والمساحات طليقة وخطواتي تضيق وأبحث حوالي عن شيء لا أعثر إلا على نفسي وأمد يدي بحثا عن يدي لا أجد قربي غير
Yeah.
À voix haute, Meredith Ledez.
Je connais les mains de mon géant comme si je les avais moi-même façonnées. Et plus encore, je connais encore mieux la main droite, c'est celle que je tiens. Je la reconnaîtrai parmi des millions d'autres. J'en connais chaque doigt, chaque phalange, chaque ongle, chaque poil. J'en connais l'odeur, j'en connais le taux d'humidité à la surface et la mesure exacte de la moiteur de la paume. J'en connais la consistance, les différentes consistances. J'en connais les différentes épaisseurs et les différentes rugosités, celles de chaque phalange. Je connais l'ongle le plus lisse et l'ongle le moins lisse. Je connais le nombre de millimètres taillés à chaque fois qu'il se coupe les ongles, toujours très courts. Je sais lequel des cinq doigts est le plus poilu et celui qui l'est le moins. Je sais les moindres petits détails de la paume et la manière dont le sang y circule, rendant la peau plus rouge à certains endroits qu'à d'autres. Je sais le petit défaut de l'ongle de l'index, un demi-millimètre d'ongle manquant entre la cuticule et le reste de l'ongle à gauche. Les regards et les mots sont furtifs. Il a beau tendre son doigt et vérifier de temps en temps que je m'y accroche bien, tout son être scrute droit devant la sortie principale. Je sens l'urgence qui agite le géant. Son corps a beau essayer de faire l'effort de se mouvoir à mon rythme, sa précipitation n'en est que plus criante. Il prend sa mission avec un sérieux palpable jusque dans la moiteur de sa main. Les derniers mètres qui nous séparent de la porte ressemblent aux derniers rebondissements. Quand le chevalier mobilise tout son courage et toute sa force avant de porter le coup de grâce au dragon et de sortir en courant du donjon qui s'effondre 2 secondes après qu'il en a franchi le seuil dans une acrobatie extraordinaire. Mais non, la scène finale n'est pas celle-ci car, après la grande porte de sortie, il y a le dehors, il y a la rue et les détonations qui se rapprochent. Il y a les autres, la foule agglutinée devant la porte, chacun essayant comme il le peut de s'extraire de cette fourmilière dans le bruit assourdissant du trafic, des klaxons, du ronronnement permanent de la ville. Le géant prend sa mission plus que jamais au sérieux. Pendant la traversée chevaleresque de la cour, il n'était qu'en préparation, il s'entraînait pour la vraie mission du dehors. Il n'y a plus de cour, plus de limites. Plus de chemins balisés vers la sortie, plus de remparts au château, plus de donjons, plus de dragons. Il n'y a que lui, moi et l'infini chaos qui nous sépare de la maison. C'est à ce moment-là, quand on franchit le grand portail de fer, que sa main entière attrape mon poignet. Il n'y a plus de doigts, ma main ne tient plus rien, je n'ai plus d'accroche, je ne peux plus regarder encore et encore tous les détails de ses phalanges. Sa main délaisse parfois mon poignet pour agripper mon épaule, pour me rapprocher encore plus de son corps, pour que nos corps fassent encore plus corps. De temps en temps, sa main moite exerce une pression sur mon poignet, mon bras ou mon épaule, et me fait un peu mal, mais je ne dis rien. Je ne veux pas le perturber, déranger son extrême concentration. Quand je lève la tête, je vois perler sur son visage des grosses gouttes de sueur. Il y en a qui coulent le long des tempes et de la mâchoire, et d'autres qui dégoulinent le long du nez. Parfois, il ordonne fermement quelque « allez » ou « attention » et j'obéis. Je comprends bien qu'il faut rentrer vite. Les autres parents ont l'air de prendre leur mission très au sérieux, eux aussi. Les enfants ont arrêté de hurler, mais ils ont l'air inquiets. Et il y en a certains qui pleurent encore. Moi, je ne m'inquiète pas trop. Je suis bien contente d'être avec mon géant et de rentrer plus tôt que prévu à la maison. Je lève la tête pour lui crier que je suis bien contente qu'il soit venu me chercher, mais il ne m'entend pas. Je voudrais seulement le rassurer un peu, lui dire de ne pas avoir peur. Mais je ne suis pas très douée pour dire ce genre de choses. Et puis, de toute façon, il y a bien trop de bruit pour pouvoir se parler. Bravant les obstacles, surmontant les épreuves, nous atteignons la voiture, et le chevalier me hisse sur son destrier avant de s'installer lui-même devant et de prendre les rênes. Le destrier est un de ces petits chevaux de Mongolie, presque un poney comparativement à la taille de mon géant. Il met quelques secondes à trouver une position confortable sur la selle bien trop petite, et ses mains finissent par prendre les commandes des petites rênes. On attend un peu avant de partir parce qu'il y a tellement de monde qu'il est difficile de s'extraire de la fourmilière. Tous ces gens qui hurlent m'énervent. Je trouve que ça ne sert à rien de crier et de s'énerver. Et j'ai toujours aimé ceux qui savent rester calmes. Sur l'ordre autoritaire de son cavalier, la monture hennit et grogne avant de prendre son départ. Je ne regarde pas le paysage, je ne regarde pas par la fenêtre les autres destriers hurlant, je ne regarde que lui, je ne vois que lui. J'observe avec attention chaque geste, chaque grimace, chaque goutte de sueur. Les immenses mains tiennent fermement le volant. Même quand on est à l'arrêt, elles gardent leur position. Je scrute attentivement la main gauche, constatant qu'elle est bien plus mate que la droite. Les poils y sont aussi abondants, mais se fondent mieux dans la couleur de la peau tannée par le soleil. La partie recouverte par la montre, qui se lève entrevoir par moments, est très blanche. Je la fixe pour ne pas rater les instants où la montre bouge et dévoile la peau claire. J'observe la peau comme on observe des cellules au microscope, comme un sujet d'étude. Je regarde chaque poil et m'étonne de nouveau à chaque fois de leur noirceur, de leur densité et de leur extraordinaire épaisseur. Parfois, la main gauche lâche le volant. La paume se tourne alors vers le ciel dans un geste lent, puis retombe lourdement. De temps en temps, le géant perd son sang-froid. Il se met à pester contre les autres conducteurs qui, apparemment, conduisent mal, contre cette ville, contre les embouteillages et contre d'autres choses que je ne comprends pas très bien. Il le fait d'une voix douce. J'aime bien le fait qu'il n'élève pas la voix. Je déteste quand les gens crient. Quand les détonations deviennent plus fortes et plus fréquentes, il soupire très fort. Il se retourne alors aussitôt pour voir si j'y ai prêté attention et me sourit. Parfois, il raconte même des blagues. Peut-être qu'il croit que j'ai peur. Moi, je n'entends presque rien de tout cela, si peu. Je n'y accorde en tout cas pas beaucoup d'importance. Je suis trop occupée à observer ses mains et les moindres mouvements de son corps, comme au ralenti, comme dans un film muet. Je fais presque complètement abstraction de la bande-son, je fais abstraction du décor. Je n'ai pas trop envie de savoir ce qui se passe, ni ce qui se joue dans la cohue autour de nous. Je ne le veux pas et, étrangement, mes sens m'obéissent très bien. Ils zooment sur son corps et floutent le reste. On est seul au monde, le géant et moi. La terre est dépeuplée de tout le reste. Les seuls moments où j'ai un peu peur, c'est quand il faut s'arrêter devant les soldats. Ils font des gestes, des bras et des mains pour dire si on peut passer ou s'il faut s'arrêter. Ils arrêtent les gens pour leur poser des questions que je ne comprends pas bien. Ils demandent souvent où on va, et je ne vois pas bien ce que ça peut bien avoir comme importance. Ils demandent aussi les papiers d'identité, et ça non plus, je ne comprends pas bien pourquoi. Je ne vois pas ce que ça peut bien leur faire de savoir comment on s'appelle et quand on est né. Parfois, ils crient sur mon géant, et il n'y a rien que je déteste plus au monde qu'on crie sur mon père. Parfois, ils ne crient pas, mais ils disent des gros mots, et je les ai même déjà vus tirer sur des voitures. Alors moi, je me méfie et je ne les aime pas. Ils nous arrêtent souvent, plusieurs fois par jour. Il y en a partout des soldats. Souvent, ils sont devant des espèces de petites cabanes qu'ils montent avec des sacs de sable. Il y en a certaines qui sont très bien construites et d'autres moins. Mon petit frère et moi, on aimerait bien avoir de gros sacs de sable et bâtir d'aussi belles cabanes. Une fois, il y en a un qui a frappé mon géant et qui l'a fait saigner, et là, j'ai vraiment eu très peur. Parce que mon géant est vraiment très fort, c'est la personne la plus forte que je connaisse. Il est immense, et vu qu'il ne s'est pas défendu, ça veut dire que les soldats sont vraiment très dangereux. Sinon, mon géant l'aurait ratatiné. En plus, il était tout petit et n'avait même pas un habit de soldat. Quand il nous arrête, parfois, il se retourne pour voir si j'ai peur. Mais moi, le plus souvent, je n'ai pas trop peur. Parfois même pas du tout. J'ai un peu l'habitude. C'était « Mauvaises herbes », le premier roman de Dima Abdallah, paru chez Sabine Vespizer en 2020, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre lecture. Bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.